Bonjour Daniel, je vous ai découvert il y a bien des années sur France Inter, grâce à mon fidèle compagnon de vie Jean-Marc. J'ai eu la chance de partager sa vie pendant 18 ans. Il a ouvert mon esprit à une libre conscience politique et syndicale de gauche. Il est mort il y a plus de 7 ans. Et de vous entendre chaque jour me met du baume au cœur et me fait tellement penser à lui. Nous avons un fils de 13 ans, Romuald, à qui j'essaye de transmettre des valeurs humaines et un sens critique. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, donc je veux rendre un hommage à Jean-Marc. Et je vous remercie, à vous et à votre équipe, d'être encore là pour faire partager le monde avec une vision différente et qui me touche. Merci Daniel, encore merci.
Eh ben voilà, je suis bouleversé, je suis très ému, je suis désespéré parce que ce matin sur France Inter, j'ai entendu Monsieur Claude Guéant qui disait qu'il fallait bien que le président de la République gagne sa vie. Voilà, alors pour gagner sa vie, il faut 19 000 euros par mois, plus les revenus d'un cabinet d'avocat, plus tous les avantages en nature, tout frais payés et tout ça. Et moi, j'ai jamais gagné 19 000 euros par mois avec tout ça à côté. Donc si je gagne pas ma vie, c'est que ma vie, elle n'est pas gagnée, ça veut dire qu'elle est perdue, voilà. Alors, je sais plus quoi faire, d'autant plus qu'il y a les socialistes qui disent que c'est tout à fait normal. Eh ben les socialistes, c'est normal, voilà, donc ils sont d'accord. Et vive l'alternative. Peut-être qu'ils vont s'étonner qu'on vote pas pour eux la prochaine fois. Voilà, c'était Pierre.
Je suis malade tous les jours d'avoir par mes impôts, pendant des années, donné à manger à Mazarine Pinjot et à sa mère. Ça n'a pas duré qu'un mois. Monsieur Mermet, vous êtes vraiment le roi de la magouille. Parce qu'au lieu de redresser toutes ces histoires, toutes ces fausses rumeurs qui passent, vous les laissez bien dire. Parce que Nicolas Sarkozy, s'il s'augmente, c'est pas lui qui augmente, c'est une loi qui l'augmente, qui sera votée par les parlementaires. Alors arrêtez de raconter des conneries. Deuxièmement, en ce qui concerne la sécurité sociale, venez voir sur le terrain ce qui s'y passe. Les CMU, elles vont chercher leur paquet de cigarettes tous les jours au bureau de tabac. Bon, au Resto du Cœur, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Et les téléphones portables, à tout va. Troisièmement, ça rend des sacs pleins à la pharmacie de médicaments qui ont été payés par nous, par la Sécurité sociale. Il y en a marre des gens comme moi, qui sont des petits retraités. On paye pour tous ces gens-là. Alors vous m'excusez, redressez donc un petit peu les machins ou les magouillés, tout ce qui est dit au téléphone, à droite et à gauche. Redressez la vérité. Seulement, vous n'êtes pas foutu le faire parce que vous baignez dans la magouille. Et parlez donc un peu de vos communistes et de vos PS du Parti Socialiste. Ce sera beaucoup mieux que de toujours taper sur Nicolas Sarkozy où ça commence à bien faire. Quand est-ce qu'ils vont comprendre à France Inter qu'il y en a marre de vous écouter tous les jours?
Bon, ça fait du bien. Hein. Surtout en ce moment. Hein. Entendre le rire de Topor, là, c'est... Ah là, ça m'a... Je suis tout... Enfin, voilà, quoi. Super, merci. Génial, continue comme ça. Et ce serait pas mal, quand même, de mettre tout ça en perspective et de parler du mouvement panique, Rabat, Jodorowsky, tous les potes. Voilà. Merci encore. C'était Jocelyn. Ciao.
Bonjour, je voulais signaler que j'ai cherché à acheter les mémoires d'un vieux con, j'avais déjà lu deux fois, mais pour faire un cadeau, et il n'est plus édité chez aucun éditeur, dans aucune collection. Donc voilà, c'est un message pour les éditeurs de France et de Navarre, qu'il est absolument urgent de rééditer les mémoires d'un vieux con. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Sébastien de Bastia, citoyen de l'île de Corse. C'est un appel à l'aide que je lance aux auditeurs de France Inter ainsi qu'aux citoyens français. En ces jours de visite de notre président de la République en Corse, il est temps de rappeler quelques vérités. Des choix politiques vont être pris dans les mois et les années à venir concernant le développement et l'aménagement soi-disant durable de la Corse. Que ce soit le projet d'implantation d'un gigantesque incinérateur de déchets ménagers en centre Corse, alors même qu'on nous parle de révolution écologique avec le Grenelle de l'environnement, Que ce soit le projet pharaonique d'un nouveau port de commerce à Bastia coûtant la bagatelle de 300 millions d'euros aux contribuables, que ce soit la révision complète de la loi littorale ouvrant la voie au bétonnage des côtes, tous ces projets, pour l'instant, ne vont pas dans le sens de l'intérêt collectif. Ils ne servent uniquement l'intérêt de quelques personnes appuyées par des grosses multinationales dont tout le monde connaît le nom. C'est un désastre écologique, économique et sanitaire qui pèse sur notre île. Dans 10 ans, il sera déjà trop tard et nous aurons fait en Corse les mêmes erreurs que dans d'autres îles méditerranéennes. Bétonisation, baléarisation, profit à court terme sont les seuls objectifs de ces projets. Étant donné que l'information des citoyens est un des moyens de faire évoluer les consciences, nous vous invitons en Corse, toi et ton équipe, à venir faire un vrai reportage journalistique sur ce qui s'y passe. Nos portes te seront grandes ouvertes et ne t'inquiète pas, les langues sont déliées depuis bien longtemps.
Très bien, très bien, très alléchant, très intéressant, mais vous avez oublié de nous laisser vos coordonnées, cher auditeur, modeste et génial, cher AMG. Donc voilà, vous avez le répondeur de la place où j'y suis qui vous attend au 01 56 40 37 37 pour y recueillir vos coordonnées. Et bien, on ira faire un tour en Corse éventuellement. Mais pas tout de suite, parce que là, on vient d'arriver à Bogota, en Colombie, venant de La Havane à Cuba. À propos de Cuba, il y a une chose que vous devez savoir quand même, si vous venez faire du tourisme à Cuba, vous serez sans doute dans un complexe touristique, eh bien il y a un guide que nous avons lu attentivement et qui vous dit, au cas où vous êtes dans un complexe touristique, ne manquez pas tout de même de sortir du complexe touristique pour faire connaissance avec la population, avec les Cubains, ce que nous avons fait. Bref, nous voilà à Bogota, en Colombie, et c'est un pays quand même assez redoutable. Je ne sais pas ce que vous faites pour vos vacances de la Toussaint, mais sachez que la Colombie est le plus grand cultivateur de cocaïne illégale et le plus grand producteur de cocaïne au monde, l'un des principaux fournisseurs d'héroïne du marché des États-Unis, le premier producteur de faux dollars américains. La Colombie a le nombre le plus élevé d'enlèvements et d'assassinats commandités. Elle occupe la deuxième place pour le nombre d'enfants liés à la guerre et la première place pour les habitants touchés par les déplacements internes. Elle est le premier ou le deuxième pays latino-américain exportateur de prostituées et elle a la plus grande et la plus importante guérilla marxiste du monde, les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC. Voilà. C'est du espagnol ou de l'anglais rapidement traduit. Mais enfin, ça vous donne quand même un petit peu une idée de l'endroit où nous nous trouvons. On se trouve dans un drôle d'état parce que Bogota, c'est 2700 mètres et on est un petit peu dans le coton. Vous savez ce que ça fait lorsqu'on arrive ici en altitude. Bien. Eh bien, pour ce 1er novembre, histoire de se remonter un petit peu le moral, et pour ne pas oublier que le reportage, c'est d'abord du plaisir, de l'incongruité, de l'inattendu, on va retourner à Dhaka, au Bangladesh. Oui, bien, je dis bien, incongruité, inattendu, et étonnement, et pourquoi pas dire plaisir d'un déplacement à toute vitesse et d'une grande rigolade à travers Dhaka, au Bangladesh pour ce 1er novembre. Auparavant, merci au fait pour les salutations à Topor, et j'espère qu'effectivement un éditeur malin rééditera bientôt les mémoires d'un vieux con, les indispensables mémoires d'un vieux con de Roland Topor. Auparavant, avant de partir pour Dhaka, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Moi, je vais me recoucher en suçant de la coca.
Oui, bonsoir. Ben, c'était juste pour vous dire que ce soir, je me déguise, vous savez en quoi? En Cécilia. Allez, ciao.
Bonjour, je voulais signaler que j'ai cherché à acheter les mémoires d'un vieux con. J'avais déjà lu 2 fois, mais pour faire un cadeau. Et il n'est plus édité dans aucune, chez aucun éditeur, dans aucune collection. Donc voilà, c'est un message pour les éditeurs de France et de Navarre qu'il est absolument urgent de rééditer les mémoires d'un vieux con. Merci, au revoir.
Salut l'équipe de là-bas, si j'y suis, c'est Daniel, un auditeur de longue date. Je vous appelle simplement parce que ce mois-ci, le mois d'octobre, il y avait un article intéressant dans Le Monde diplomatique sur Thomas Sankara. Moi, je connaissais pas très bien l'histoire, je l'ai appréciée et je pense que elle nécessite le support de tous les amis de là-bas, si j'y suis, parce que bien Thomas Sankara, il a été assassiné dans le cadre des liaisons occultes entre la France et certains dictateurs et dirigeants africains qu'on appelle la France-Afrique dans les années 80. Et je dis pas il a été assassiné par quelqu'un en particulier, mais tout porte à croire que, en effet, les gens qui sont coupables de sa mort vivent encore quelque part parmi nous ou pas loin de nous. Et bien aujourd'hui, il y a encore des gens qui se battent pour essayer de faire la lumière et faire connaître la vérité sur la mort de cet homme idéaliste et je pense respectable, qui cherchait à amener le bonheur pour les gens de son pays et de sa nation, et qui l'a fait du mieux qu'il a pu durant sa vie. Alors, il y a une pétition pour faire toute la justice et faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara. Et la pétition, c'est e-pétition au pluriel. Donc, e-pétition au pluriel.com /pétition/ Sankara 20. Donc voilà.
Oui, bonsoir, c'est Françoise qui appelle pour le repère de Nogent-sur-Marne, qui aura donc lieu vendredi 2, vendredi qui vient, là, toujours 20h30, toujours au Bédonia. Et ça serait bien que les Nogentais secouent la semelle un peu, là, parce qu'il y a tout sauf des Nogentais dans ce troquet. Alors, il faudrait peut-être se réveiller un peu, là, nous autres. Hein? Bon. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Salut.
Salut. Je vous appelle pour signaler à tout le monde qu'on fait comme chaque premier jeudi du mois un repère là-bas, si j'y suis, au Billabong Café, jeudi 1er novembre à 21h. Le Billabong Café, c'est à Auray, dans la rue Clémenceau. Et on aura deux intervenants demain qui vont nous aider à réfléchir sur la question de la gestion des déchets, chez les particuliers notamment, donc phytoassainissement, toilettes sèches, etc. Bisous à tous et merci.
Oui, donc je suis très scandalisé de voir ce matin, donc mercredi matin, là, l'expulsion des gens du DAL qui dorment sur le trottoir de la Bourse. Donc vraiment, je suis indigné de voir actuellement que Madame Boutin veut ignorer cette situation. Et je crois que des mères et des pères et des enfants qui dorment comme ça sur le trottoir, qui demandent un logement, je crois qu'on leur envoie depuis maintenant trois fois la police. Et je crois que c'est très grave. Et donc je demande aux gens de venir les soutenir, donc ce week-end, place de la Bourse, rue de la Banque. Donc c'était Olivier Desardennes. Au revoir, à très bientôt.
C'est parti.
Alors là, on va vraiment mourir. On va mourir, c'est sûr, cette fois-ci. Jamais vu une ville aussi polluée, aussi délirante, aussi malheur de toute ma vie. Et jamais vu une chose pareille. On est dans Dakar. On a essayé de survivre dans Dakar. C'est pas du tout sûr. Comme il arrive. Là, il y a un bus qui me frôle l'épaule, littéralement. On est dans un rickshaw. Nous, on a pris un rickshaw à moteur, c'est impossible pour nous de monter dans un rickshaw à vélo, quoi. S'asseoir là-dedans, c'est avoir l'air d'une sorte de pacha. Pourtant, ils sont très très beaux, ces rickshaws vélo, mais on a préféré le tuk-tuk, et c'est vraiment infernal. Et encore là, c'est la partie la plus calme de la ville. C'est les beaux quartiers, c'est un petit peu, ça correspond quoi, à la Défense peut-être, mais c'est sans doute la ville la plus embouteillée du monde. Pourtant, la compétition est dure, mais c'est sans doute la ville la plus polluée. Et les gens sont vachement gentils, parce qu'il y a un gars là, bon, il perd pas, il voit qu'on est des Blancs, il y a très très peu de Blancs dans cette ville, enfin très très rare. Mais les gens sont vachement souriants et tout, et s'amusent de nous voir parler. Puis il y a notre chauffeur qui est devant là. Voilà, là ça va... Ah, il a coupé le moteur. Le silence.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec qui vend-il, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise.
Je sais pas si on va mourir, mais en tous les cas... Avant de mourir, on sera passé place Unilever. Ouais. Ici, à Dakar, au milieu de cette immense place que nous traversons. Putain. Ah là, on l'a vu. Oh là là. Il y a un monument à la multinationale Unilever. C'est le... Voilà, il y a écrit en gros Unilever sur un monument de ciment, de marbre. C'est la place Unilever. Et là, c'est juste à côté, évidemment, je vois des ouvrières avec des paniers qui rentrent du boulot ou qui vont au boulot. Ou bien alors des gosses, des mendiants, comme il y en a ici, et qu'on voit au feu rouge. Ah, ça vous chope à la gorge. Hein. C'est terrifiant. Absolument terrifiant.
Alors vous avez le choix, pour aborder Dakar, soit vous pouvez lire les lignes qui suivent. Dakar, la capitale du Bangladesh, s'étend sur la rive nord du fleuve Buriranga, au centre du pays. Si vous venez d'Asie du Sud-Est, elle vous fera l'effet d'une ville assoupie. Si vous arrivez de Delhi ou de Katmandou, vous serez frappé par la relative pureté de l'air. Si vous venez de Calcutta, vous trouverez la ville propre et organisée. Et si vous venez du Bangladesh rural, vous vous croirez au paradis. La capitale dispose d'infrastructures qui font défaut dans le reste du pays. Voilà ce qu'on peut dire sur un guide touristique par charité, je ne nommerai pas. Mais vous pouvez aussi lire que le Bangladesh, et Dakar tout particulièrement, est l'un des lieux les plus dangereux du monde. Les Moudjahidines sont là dangereux. Et ils ont formé, ces Moudjahidines afghans, les fondamentalistes bangladais qui ont entamé un nouveau cycle de violence qui plonge le pays dans le pire des obscurantismes et le gouvernement de Dimo. Tout ça, c'est vrai, c'était pas le sujet de nos reportages. On se souvient effectivement, le 17 août 2005, il y a eu une série d'attentats au Bangladesh, simultanément dans la même demi-heure, 459 bombes ont pété dans l'espace d'une demi-heure. Et ça a été pour le mouvement islamiste radicaux une façon de montrer leur présence et leur puissance et la façon dont ils maîtrisent l'État, dont ils maîtrisent le pouvoir. Mais c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on va essayer de survivre. Parce que vous entendez des reportages, vous entendez des voix, des personnes, etc. Mais entre les lieux, entre les personnes, entre les événements, eh ben, il y a la circulation. Et sans doute que Dakar est la ville la plus cinglée du monde, pour ce qui concerne la pollution, les embouteillages, une ville de 10 millions d'habitants, dans laquelle il y a 300 000 rickshaws. 300 000 rickshaws, vélos, hein, des gars qui pédalent toute la journée, qui pédalent jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Alors régulièrement, la police, parce que à peine 80 000 de ces rickshaws ont une licence et sont repérés par les autorités, mais tous les autres, évidemment, sont clandestins, entre guillemets, simplement des milliers, des dizaines de milliers de, comme les ouvrières, comme ceux qui... ce travail sur les chantiers de démolition des navires, ce sont des gens qui essayent tout simplement de survivre, d'échapper à la misère et à la famine. C'est très souvent des gens qui viennent des régions nord de ce pays, Delta, le le Bangladesh, 150 millions d'habitants, c'est le delta, c'est le delta du Bengale. C'est beau, un delta du Bengale, on dirait un titre de roman de gare. On va voir que c'est pas tout à fait ça, même si la ville a des côtés très sympathiques, et puis surtout les habitants, effectivement, sont très sympathiques, industrieux qu'ils sont, et souriants qu'ils sont, et surpris qu'ils sont. Mais qu'est-ce que des Blancs peuvent bien faire dans notre ville? C'est là-bas si j'y suis, sur France Inter. Incroyable, le bordel dans lequel on se trouve. Mais là, on va mourir. Hein. On est coincé comme d'habitude entre deux énormes bahuts déglingués, cabossés, rouillés. Et voilà, ça klaxonne de tous les côtés entre les marchands de fringues. Alors maintenant, il y a un truc nouveau qu'on n'avait pas encore vu. C'est de magnifiques charrettes, de magnifiques carrosses avec des petits chevaux. Genre petit mulet, comme ça, emplumé. Et puis, à bord, des gens comme des espèces de nababs, des princes, avec des regards lointains qui sont sur ce... J'ai jamais vu un pays aussi fou de bruit. Et que dit le gars là-bas, dans le haut-parleur? Ils adorent les haut-parleurs, les gens ici. Qu'est-ce qu'il raconte?
Publicité.
Une page de publicité. Des médicaments. Quels médicaments?
Des médicaments pour augmenter la durée de sexe.
Ah bah voilà, d'accord. Ouais. Bah, c'est très bien pour les mariés.
Orgasme.
Ouais. Orgasme garanti. Ouais. Ouais. Hop, on passe entre les deux. On est trois. Non mais j'ai vraiment le tuyau d'échappement directement dans le nez. Il y a quand même un gars qui passe et qui vend aux passagers du car. Il leur vend
la glace.
Il leur vend de la glace. Et devant nous, il y a des rickshaws. Il y a des rickshaws vélos. Et là, alors, tous les rickshaws sont décorés. C'est très connu à Dakar, au Bangladesh, les rickshaws décorés. Mais chaque rickshaw est un poème. C'est-à-dire qu'on peut... Finalement, on s'amuse beaucoup dans les embouteillages parce qu'on peut regarder là-bas, celui-là, c'est des personnages des films hindous. L'autre, là, il y a des personnages peints, c'est très très bien peint. Il y a un gros œil, un peu comme un œil de Fatma. Il y a un personnage avec une mitraillette. Il y en a d'autres qui ont la gueule en sang là-bas. D'autres qui ont des... avec des fleurs autour, on sent des... on sent des... Et le chauffeur se marre. Ce gars-là passe sa vie dans cette cage, hein, parce que les chauffeurs sont entre trois grilles de fer, trois grillages. Et voilà le carrosse qui nous rejoint avec des femmes voilées. Regarde l'autre, il a le ventre en avant. Les gros ne font rien, sont assis et les autres pédalent. Là, ils sont en train de faire la canne à sucre. Il n'y a pas... Chaque millimètre de l'œil est occupé par un étonnement. Les gars qui courent. C'est une circulation de la fluidité. On est un peu comme des poissons dans un banc de poissons. Mais pas comme des poissons dans l'eau pour ce qui nous concerne, nous aussi, tout le monde autour. retour est tout à fait à l'aise et tout à fait bien et heureux. Et c'est vraiment les habitants de Dakar, je ne sais pas comment on les appelle, sont vraiment les Mozarts du rickshaw, les Mozarts de la circulation. Ils ont un art de circuler dans ce bordel, dans ces embouteillages, de façon tout à fait extraordinaire. Et ce qu'il y a au-dessus de nous, au-dessus de la circulation, c'est des échafaudages en bambou. On utilise beaucoup, beaucoup le bambou au Bangladesh. Le climat permet de faire pousser du bambou en grande quantité et en très, très grande taille, des longueurs de 6, 8, 10 mètres de bambou d'un seul tenant, comme ça, et qui servent pour les échafaudages. Donc, on construit des buildings entiers avec des échafaudages construits en bambou, et on utilise aussi les bambous pour monter, grimper le long d'une façade, par exemple, quand on veut accrocher une affiche ou un panneau publicitaire, ou le peindre, parce que très souvent, ces panneaux publicitaires sont peints à la main, et vous avez au-dessus de vous, à 30 ou 40 mètres, un gars qui est assis ou sur un pied, sur un simple bambou en train de peindre un truc. J'ai toujours admiré, j'avais vu ça déjà en Inde, je crois que c'est à Delhi ou à Bombay, je ne sais plus, mais là, il y a encore plus d'utilisation. Donc au-dessus de ce bordel, Fellini aurait connu Dakar, il aurait simplement promené sa caméra dans Dakar, et on aurait eu cet étonnement d'enfant qu'on a devant les films de Fellini, et que Fellini avait envers la vie, et là c'était la vie italienne, mais envers la vie et envers son enfance.
Il y a un type avec un sifflet qui fait la circulation, lui. Il fait la circulation et il nous conseille de ne pas passer par là. Ah, pourquoi? Pourquoi il nous conseille de ne pas passer par là? On va bientôt le savoir. Parce qu'il y a une manifestation qui vient contre nous. La manifestation vient vers nous. Et alors on va être mal vu par les manifestants, nous qui sommes toujours pour les manifestants. Nous qui sommes toujours dans les manifestations. Voilà, on va être mal vu. On est repoussé. D'accord les gars. Oh, c'est une petite manif. Qu'est-ce qu'ils veulent?
On vient de se faire emboutir là par derrière par une camionnette. Donc le chauffeur sort tout de suite très énervé. Et du coup on bloque complètement la rue.
Mais ça fait ailleurs, démarre. On peut pas s'engueuler longtemps. Il en a mis trois coups dans le cul quand même. C'est la première fois qu'on se fait emboutir en 8 jours de. Quoi, c'est un peu volontaire, hein, c'est très maîtrisé. Voilà, on a croisé la manif. De l'autre côté de l'avenue, ils sont absolument bloqués. Bloqués dans les gaz d'échappement. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Là, on double des pelotons de rickshaw. Hop, le gars avec son bidon de lait, hop là. Qui passe. Et à gauche, c'est des charrettes. Des charrettes qui... Oh, oh là là. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer en rentrant. Jamais.
À côté de ça, le périphérique, ouais, c'est un vrai billard. Ça.
Ouais. Non mais rouler à 240 sur le périph, c'est pas vraiment prendre des risques. Non, au lieu de faire le Paris-Dakar, ben, tu viens simplement avec ta moto, tu fais une heure dans Dakar et tu survis, c'est tout. Ça c'est une épreuve, non? Pour des Européens. Traverser Dakar, alors t'as une épreuve à pied, t'as une épreuve en patin, vous l'êtes.
Des fois, tu peux même pas marcher parce que sur le trottoir, il n'y a que des marchands.
Des étals et des marchands.
Les piétons, c'est au milieu de la route.
Les pauvres chevaux, j'ai pitié pour ces chevaux.
Oh là 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 là.
Ah les gars, avec ces immenses paniers sur la tête, regarde. Hop là. Le gars, il va traverser, le gamin traverse avec une montagne d'œufs. Là, eux, ils portent les charrettes. Ça, c'est vraiment les esclaves, les esclaves.
Les coulis, quoi.
Oui, ouais, c'est les hommes mulets. Ils tirent d'énormes charrettes avec une cinquantaine de sacs de je ne sais quoi, de carton. Là, il y en a un qui a des petites bobines de ficelle sur son dos. Un paquet de bobines de ficelle, là, des pneus. Attention, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, hop, encore une manif.
La police fait la circulation.
Attention, une manif. Une manif avec une dame, un monsieur, un beau moustachu.
C'est la partie politique du gouvernement.
Oh, comme ils sont heureux.
Le parti nationaliste bangladéchi. Avec des petits chapeaux blancs sur la tête. Bien sûr, exclusivement des hommes. Et ça fait quoi? Ça fait 200 personnes maximum qui marchent au pas de course.
Et ils font pas pitié, hein.
ils sont plutôt bien nourris. Enfin, à l'échelle du pays, ils sont plutôt...
Et là, il y a un paresseux qui a fait la manif, un cyclopousse.
Il l'a fait en pousse-pousse, mais la volonté y est, et il a l'air martial avec sa petite moustache et son petit machin en carton blanc sur le front avec le texte. Il n'a pas besoin de crier. C'est écrit là, c'est écrit sur le front.
Il n'a pas besoin de marcher, il y a le cyclopousse qui est à pédale.
Absolument. Ah voilà, un beau cheval.
Avec des guirlandes de fleurs tout à
l'heure. Vous êtes fous.
Joyeux déjà celle-là.
On va bientôt arriver. Les flics sont à la fois. C'est difficile à la fois sévère et débonnaire. Sévère et débonnaire à la fois.
Ah là, c'est les marchands de tissus de toutes les couleurs.
Ah, une manif.
C'est la quatrième depuis tout à l'heure.
Oui, on va entrer vers le port, non?
Ben,
on est dans le port, au bord de la rivière.
C'est ce qu'on voulait.
On descend? On laisse?
Oui, écoute.
On est arrivé.
Ouais. On est content.
Ça est sauf.
Jusque-là, ça va.
Mais là, je sais pas où on est. Enfin, on est sur le port de Dakar, là. C'est complètement délirant. D'abord, l'odeur. Le mot qui vient, c'est cloaque. Ça pue, c'est épouvantable. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des énormes ferries qui doivent dater du temps des Britanniques qui font des traversées, on va savoir vers où. Et puis, il y a cette quantité de bateaux avec deux, trois personnes et des gondoliers. Des gars qui bossent exactement comme des gondoliers avec une barre derrière. Et puis, de temps en temps, des bateaux moyens, des espèces de grosses péniches très rapides, hein, qui transportent des marchandises. Il y en a une qui transporte d'énormes ballots. Et d'autre côté, on aperçoit la rive avec tous les bateaux, les petits bateaux de cette taille-là. Ils sont très beaux, d'ailleurs, très belles formes, comme ça, relevés un peu en avant et beaucoup plus relevés en arrière. Assez courts, hein. C'est des bateaux qui font 3-4 mètres.
Il y a un petit garçon tout nu, là, qui est en train de remonter sur le pont et qui plonge. Et alors, ces gamins, ils sont dans cette eau, mais l'eau, elle est pas noire, quoi. Elle est plus noire que noire, elle est opaque.
Voilà. Et les mômes sont magnifiques. Ils sont 3-4 gamins là qui sont en train de plonger dans les eaux du fleuve Buriranga, qui est un des plus grands fleuves de Dakar, qui est une ville en grande partie effectivement sur l'eau, comme tout le Bangladesh est un pays sur l'eau. Là donc, vous avez compris, on est au bord de on est arrivé, on a réussi, on a survécu et on a traversé cette ville, on est arrivé sur les bords du fleuve. On a croisé ces manifs, ces quatre manifs qui quand même traduisent une vitalité sociale dans cette ville et dans ce pays, mais spécialement dans cette ville de Dakar, où on l'a vu, les gens se laissent pas faire, s'organisent en association, en ONG, en syndicat, c'est plus difficile, mais ils se laissent pas marcher dessus, ils se laissent pas faire, ils se battent, ils ont vraiment l'énergie, c'est une énergie absolument folle qui traverse cette ville. Et là, on va faire un tour sur le fleuve, et alors ça suppose évidemment de négocier avec les bateliers, avec ceux qui effectivement comme des gondoliers à Venise nous attendent avec leur barque. Nous attendent, nous, non, pas vraiment. Enfin, il faut la traverser, quoi, du fleuve, pour qui veut bien. Et là, exceptionnellement, d'une façon extraordinaire, il y a deux blancs, qui c'est Guy et moi, avec notre ami Ondaï, qui est notre ami traducteur et formidable connaisseur de notre pays, de la France.
Alors on monte sur la petite barcasse, tout en bois. Alors comme tous les sampans sont imbriqués et intriqués les uns dans les autres, il faut en bouger quatre pour pouvoir sortir. Boum, accident. Regarde celui-là, il est à ras bord, mais vraiment à ras bord. C'est-à-dire que le fil de l'eau est vraiment juste en dessous, il est rempli de briques. C'est vrai qu'il y a presque plus de place que sur la proue pour avoir quelques gars. On ne comprend pas pourquoi il ne coule pas. Quoi. Là, la moindre mec qui bouge, le bateau chavire.
Gros trafic de... Ça, c'est des ferries qui descendent le fleuve ou qui montent le fleuve. Et là, il y a tout un trafic de péniches et de remorqueurs qui transportent toutes sortes de camelotes. Et puis sinon, il y a des petits bateaux indépendants, comme ça, comme le nôtre, qui transportent des gens, des petits bateaux taxis.
Comme dans la rue, avec les pousses-pousses, les rickshaws, les autobus et les camions.
Ouais, c'est un autre genre d'embouteillage, c'est un autre genre d'odeur, c'est un autre genre d'ambiance. Les eaux sont résolument glauques, grises. C'est les eaux du Gange quand même. Ah, et du Brahmapoutre. Il n'y a pas que le Gange, il y a aussi le Brahmapoutre. Mais le Gange, je le connais pour être allé à Bénarès. Quand je pense qu'ensuite, il traverse Calcutta quand même avant d'arriver ici. C'est-à-dire que toutes les ordures du monde arrivent ici. Et nous, on est tranquillement là, naviguant avec notre... accompagnateur improvisé là qui avec son parapluie noir qui nous tient la pluie du soleil. Il faut faire attention aux blancs, quoi. Il y en a pas beaucoup ici. On a vraiment le sentiment d'être en voie de disparition, d'une fragilité, on dirait des petits bibelots extrêmement fragiles. Le chantier de réparation. Dakar, c'est un port. Le Bangladesh, c'est de l'eau, et Dakar, c'est un port. Sur ce grand fleuve. Et là, cette symphonie pour marteau, c'est le chantier de réparation. De construction, de réparation, de restauration, en tous les cas, des bateaux. Et là, il y a une quinzaine de bateaux. Certains sont en cale sèche et sont en cours de réparation. Il y a un chalumeau et tout le reste se fait à coup de marteau.
Alors là, ça va nous réparer aussi, ça va nous réconcilier, parce que on a vu que des chantiers de démolition de navires, bah au moins là, on les construit. Voilà, port de Dakar, ces énormes navires en réparation, en restauration, ça nous rappelle que le Bangladesh, comme l'Inde, comme énormément de ces pays en voie de développement, comme on dit, eh bien, recycle, retape, réutilise tout de façon permanente. De l'autre côté du fleuve, c'est l'accès de tout ce qui est... C'est un marché où tous les végétaux, les légumes, les fruits, les fleurs arrivent sur ce fleuve très glauque, mais qui est un des grands moyens de vie et de survie des habitants de Dakar. Ah ouais, le bateau des citrouilles, comme dans les histoires. Il fonce celui-là, hein, c'est un bateau de passagers, mais ça fonce drôlement, hein. Ça avance méchamment, hein.
Ça tangue un peu, là, hein.
Attends, je comprends pas ce qu'on voit.
C'est un sous-marin ou un bateau?
Voilà, c'est entre le sous-marin et le bateau, c'est complètement coulé ce truc. Et qu'est-ce qu'il transporte?
Du sable ou du gravier. C'est absolument plus tellement il y a de l'eau qui passe par-dessus bord. Et là, bien sûr, il nous fait une grosse vague. Alors nous, comme sur une petite coquille de noix, ça tangue. Hop. T'as vu dans le ciel, il y a des dizaines et dizaines de corbeaux qui planent.
Ah, qui attendent. Il y a un gars qui est en train de prendre son bain. Il y a tout un tas de gens qui sont en train de se baigner. Mais il est en train de prendre son bain avec une volupté, avec un plaisir. Il se détend. Il est bien. Et alors, il se rince la bouche. Il avale l'eau. Il la recrache. Et puis, il nage un petit peu. Il fait quelques mouvements. C'est un peu le Bénarès du pauvre ici. Je commençais à trouver que le fleuve, c'était beaucoup plus cool, comme son nom l'indique. Mais là, on s'approche des ferries. Là, il y en a un qui vient vers nous quand même, plutôt, qui a plutôt tendance à venir vers nous. Voilà, on va bouger. Il y en a un derrière qui, avec son haut-parleur, dit quelque chose.
Non, ils vont à la réunion de parti politique du gouvernement, de Barichal.
Alors, c'est une manif.
Ouais.
On est venu sur le fleuve pour fuir les manifs dans les embouteillages, mais non. Il y a un énorme navire quand même derrière, hein, le ferry, t'as vu, qui nous suit.
La puissance d'actuel gouvernement. C'est la manifestation simplement pour montrer la puissance de l'actuel gouvernement.
On fait un grand usage du haut-parleur ici, du porte-voix. Par exemple, les bus, le matin, eh ben, il y a des haut-parleurs sur le bus et on passe de la musique, une espèce de bouffée de musique ambulante comme ça, ou bien au cours des longs voyages et des longs blocages dans les embouteillages, dans les autocars par exemple, eh ben, il y a un gars qui prend le micro et qui chante une petite chanson, une petite prière ou qui raconte une petite histoire à l'usage de ceux qui sont dans le car, mais aussi bien à l'usage des passants et des embouteillés alentour.
Oh. C'était Anoushka Shankar, Red Sun. Vous avez par ailleurs pu entendre durant cette émission Ganja Gogo par Dan The Automator. Nous quittons Dhaka au Bangladesh pour un aperçu de ce qui vous attend demain. Un reportage sur les chantiers de démolition des navires internationaux de Chittagong, toujours au Bangladesh.
Alors ce matin, enfin, on va vers les chantiers. On est à Chittagong et on a quitté le centre de la ville et on va vers la côte. Où se trouvent ces chantiers de shipbreaking, mais tout au long de la route que nous suivons là pour l'instant, de chaque côté, on vend tout ce qui vient des bateaux, tout ce qui provient des bateaux, c'est-à-dire aussi bien des meubles, des éviers, des chauffe-eau, des compresseurs, des machines-outils, des tissus, des câbles,
des tuyaux de chaudière,
des tubulures, des tours à métaux. Beaucoup, beaucoup de bois. Il n'y a pas un centimètre, un millimètre de ces bateaux qui ne soient récupérés. Des bateaux qui font 100, 200, 300 mètres de long parfois. Je pense au France, au Norway qui ne viendra pas ici. On en reparlera. Mais voilà, de chaque côté de cette route interminable, on trouve des commerces, des activités autour de ça. Et là-bas, on vend des bouées. On vend des chaînes de sauvetage avec le nom des navires, avec l'origine des bateaux. Je ne sais pas très bien à quoi ça peut servir ici, mais enfin, tout sert, on trouve, à recycler chaque pièce, chaque centimètre des navires qui sont détruits ici.
You see, it's almost 20 kilometers coastal belt.
Il y a 20 kilomètres de côte comme ça.
More than 40 shipbreaking yards.
Plus de 40 chantiers de destruction de bateaux.
C'est ça, c'est la ressource en acier du pays. C'est-à-dire que les navires, c'est comme des mines de fer, quoi.
Yeah, because no other alternative we have.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour s'en procurer.
More than 80% come from the shipbreaking.
Et puis 80% vient des chantiers de déconstruction, de bateaux.
Le reste est importé. Il faut savoir qu'on est dans un pays qui fait le tiers de la France, à peu près, comme taille, avec 140 millions d'habitants. Donc la destruction des bateaux, c'est pas seulement un business, c'est vraiment une ressource pour le pays.
And this go to the rolling mill, another mill.
Et qui après est retravaillé dans des usines et refondu.
It play a vital role in our economy.
C'est vital pour notre économie.
Not only we get the iron, we also generate a huge employment here.
Parce que non seulement ça nous permet de récupérer le fer, mais aussi ça crée beaucoup d'emplois ici dans la région.
Besides that, there are many subcontracting industries growing up.
Et en plus de ça, autour de la déconstruction des bateaux, il y a énormément de sous-contractants et de petites entreprises qui travaillent autour à la périphérie.
You see, we get various type of items from the ships. Everything used in our country.
Tout ce qui est récupéré sur les bateaux est réutilisé dans notre économie, dans notre pays.
You see, nothing is wasted in this industry. Everything is used in any form.
Rien n'est gâché, en fait. Tout est réutilisé sous toutes les formes.
Like furniture, like pipe, like cylinder, light.
Les lumières, les lampes.
Bathroom fittings.
Tous les ustensiles de salle de bain, tout est réutilisé.
Regarde là-bas. On n'arrive pas très bien à mesurer les proportions entre le navire et les gens. Regarde ces toutes petites formes colorées, ces toutes petites taches de couleur. Eh bien, c'est les ouvriers qui sont en train de sortir du navire. Là, cette énorme masse d'acier rouillé, ce tas de rouille énorme, ce château de rouille. On voit cette ribambelle de tout petits points de couleur, toutes petites taches de couleur en ligne qui vont, qui viennent dans la vase. Il y a un peu de brume, un peu de soleil. On aperçoit les hommes aussi là sur le pont.
Ça c'est un pétrolier.
Jovial du, on saura jamais comment il s'appelle à part Jovial.
Mais doub jata hu sharbati teri aankhon ki jhil si gehrai mein sharbati तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता
C'était là-bas si j'y suis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Réalisation Yann Chouquet et Koy Nguyen, assisté de Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.